Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je m'en vais et je viendrai à vous, disait notre Seigneur à ses apôtres. Il s'en va vers le Père, mais il reste parmi nous. Il ne nous laisse pas orphelins. Non seulement il va nous envoyer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais il nous laisse le mémorial de sa passion. Il nous laisse sa présence réelle. Et même, il nous laisse son corps comme nourriture pour nos âmes. Voilà, bien chers fidèles, le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Nous anticipons la fête de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons les 750 ans de l'institution de la fête du Très-Saint-Sacrement. C'est une humble religieuse, Julienne de Cornillon, novice, que Dieu choisit pour être la messagère afin d'instituer cette nouvelle fête. En vision, elle vit un astre brillant, une lune resplendissante, dont cependant une échancrure restait obscure. Et Dieu lui révéla que cette obscurité, cette échancrure restée obscure, signifiait une solennité qui manquait encore au cycle liturgique. Et alors, elle garda ce secret pendant 20 ans, elle n'osait pas le révéler dans sa toute humilité. Ce fut un combat de Dieu contre l'humilité de sa servante. Et au bout de 20 ans, elle décide à parler. Elle révèle cela à son directeur spirituel, afin que l'Église puisse juger de cette révélation. Et le théologien Jean de Lausanne consulta d'autres théologiens, et tous dirent unanimement, il n'y a rien contre la foi dans cette institution d'une nouvelle fête en l'honneur du Saint-Sacrement. Bien au contraire, cela ne peut que procurer la gloire de la Sainte Eucharistie. Et aussitôt, elle fit rédiger par un moine pieux l'office du Saint-Sacrement, non pas celui que nous avons, mais un office primitif du Saint-Sacrement, qui fut bientôt approuvé par tous les prêtres du diocèse de Liège. Mais, hélas, parmi eux, dans le clergé, certains résistaient, disaient « Non, à quoi bon une nouvelle fête pour Jésus hostie? N'y a-t-il pas assez avec la messe quotidienne ?» Voilà l'impiété suscitée par le démon, bien cher fidèle, qui voulait mettre obstacle à cette volonté divine. Nous en avons assez avec la messe, cela suffit. À quoi bon une solennité supplémentaire? Et alors, Julienne fut ébranlée, elle eut des doutes sur sa mission, et elle partit en pèlerinage, à droite et à gauche, pour recevoir la lumière. Et réconfortée par ses prières, elle revint à Liège pour réussir à instituer cette fête. Mais revenue dans son couvent, au Mont Cornillon, elle fut en butte à une persécution. On vint même dans sa cellule pour ravager son oratoire, pour essayer de la chasser de la ville. Mais elle resta ferme. Et bientôt, heureusement, un saint évêque fut nommé sur le siège de Liège, Robert de Tourotte, qui approuva cette intention de Dieu, qui bénit cette grande entreprise et qui signa, quelques semaines avant sa mort, le décret instituant la fête de Dieu. En octobre 1246, et près de mourir sur son lit de mort, il fit encore célébrer la messe de la fête de Dieu avec l'office de la fête de Dieu en sa présence. Si bien que l'on peut dire que la fête de Dieu fut réellement célébrée pour la première fois il y a 750 ans. C'est seulement l'année suivante que les chanoines de Saint-Martin firent célébrer la messe de la fête Dieu dans leur collégiale. Et 5 ans plus tard, le légat du pape, Hugues de Saint-Cher, un grand théologien, fit à nouveau célébrer la messe de la fête Dieu à Liège. Et enfin, cette solennité de fait se répandre dans toute l'Église grâce au pape Urbain IV, ancien chanoine de Liège, monté sur le trône de Saint-Pierre, qui se souvint de ces révélations de Julienne de Cornillon et qui institua pour l'Église universelle, par sa bulle Transiturus de 1264, la fête de Dieu. Et son successeur Jean XXII va exiger en plus la procession du Très Saint-Sacrement en 1317. Et dès lors, chaque année, dans toute la chrétienté, Jésus hostie recevra toutes les louanges, tous les honneurs du peuple chrétien, afin, comme disait Urbain II, que l'on porte le divin roi dans les rues de nos cités, qui ne reste pas à l'ombre des sanctuaires ou dans les coins obscurs des sacristies. Lui qui a droit à régner partout, que l'on le promène en procession publique dans les rues de nos cités, afin qu'il montre qu'il est le roi de toutes choses, sur la terre comme au ciel. Toutes choses humaines doivent lui être soumises. Jésus hostie, le Dieu humilié, le Dieu crucifié, le Dieu caché au tabernacle, le Dieu qui veut bien daigner devenir la nourriture de nous pauvres hommes pécheurs. Ce Dieu, cet homme Dieu, Jésus-Christ, a droit à toutes les louanges de la part de l'Église comme de la cité, comme de la société civile. Voilà la signification de la fête Dieu et de la procession du Saint-Sacrement que nous allons faire cet après-midi, Dieu aidant. Bien, chers fidèles, Julienne de Cornillon, cette sainte de votre patrie, bien, chers fidèles, fut en proie à la haine mortelle des ennemis de l'Église, qu'il voulait empêcher cette fête. Eh bien, la situation est la même aujourd'hui. La messe de toujours, la présence réelle, la communion à Dieu, ces trois dogmes de la foi catholique sont combattus actuellement par de nouveaux hérétiques qui ne veulent plus y croire. Nous sommes en un temps d'hérésie, chers fidèles, et c'est spécialement ce dogme de la Sainte Eucharistie qui est combattu par une haine inexpiable, par une guerre à mort, par les nouveaux modernistes. Si bien qu'il faut que ce soit les fidèles, le petit groupe de fidèles restés fidèles, qui s'organisent pour faire cette procession de cet après-midi. Parce que le clergé moderniste n'y croit plus. Et c'est pourquoi ils ne font pas de procession, parce qu'ils n'y croient plus, ils ne veulent plus y croire. C'est l'apostasie. Ils ne veulent plus croire que la messe est un vrai et propre sacrifice, renouvellement du sacrifice du calvaire. C'est pourquoi ils ont institué une nouvelle messe de saveur protestante, œcuménique, qui cache ces vérités du sacrifice rédempteur de la messe. Ils ne croient plus non plus à la présence réelle, puisque malheureusement dans cette nouvelle messe, tous les gestes de révérence, d'adoration ont été supprimés, quasi supprimés. Elle est célébrée dans la langue vulgaire, face au peuple, presque sans génuflexion. Ils ont perdu la foi dans la présence réelle, ces malheureux prêtres, depuis 27 ans maintenant qu'ils célèbrent cette nouvelle messe. Et enfin, la communion qu'ils imposent que l'on reçoive debout, dans la main, sans respect. Parce qu'ils ne croient plus que par la Sainte Communion, c'est Dieu lui-même, le Verbe fait chair, réellement et substantiellement présent dans la Sainte Hostie qui descend dans nos âmes. Il n'y croit plus. Il renouvelle l'erreur de Béranger qui vivait un siècle avant Sainte Julienne de Cornillon. Cet hérétique qui habitait à Tours niait la transsubstantiation et la présence réelle. Eh bien, nous y sommes. Les prêtres, de nombreux prêtres actuellement, ne croient plus à la transsubstantiation, ne croient plus qu'à la messe, par les paroles du prêtre, le pain, la substance du pain, est converti dans le corps du Christ, et que la substance du vin est convertie dans le sang du Christ, et que par conséquent, sur l'autel, il n'y a non plus du pain ni du vin, mais seulement les apparences qui recouvrent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son âme et sa divinité. Grande vérité de notre catéchisme, que l'ange vint révéler à nouveau au petit pastoureau de Fatima, 1916, un an avant la Sainte Vierge, en leur apprenant cette belle prière. Ô adorable Trinité, je vous adore et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, etc. Quelle profession de foi dans la présence réelle. Et nous offrons cela à la messe. Nous offrons à la messe le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en sacrifice rédempteur pour appliquer la passion du Christ, pour laver nos péchés. Il n'y croit plus. Alors, bien chers fidèles, reprenons les grands motifs qui émurent le saint évêque Robert de Tourotte, comme le pape Urbain IV a institué cette fête. Et dans leur bulle de promulgation, ils donnent quatre grands motifs qui sont justement aujourd'hui, bien chers fidèles, les quatre motifs de notre procession et de notre réunion ici. Qu'est-ce que nous voulons faire? Pourquoi cette fête Dieu en l'honneur du Saint-Sacrement? Eh bien, ces papes disaient premièrement en action de grâce pour la charité très pure que Jésus-Christ nous montre dans le sacrement de son amour. En action de grâce. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné Jésus hostie. Merci, mon Dieu, de nous avoir gardé la messe de toujours dans un temps d'apostasie générale. Merci mon Dieu, action de grâce. Ensuite, pour suppléer et pour réparer aux manquements, aux irrévérences, aux blasphèmes contre la Sainte Eucharistie. Vous voyez donc, la deuxième intention, c'est la réparation. La procession du Saint-Sacrement a un but de réparation pour toutes les irrévérences, les blasphèmes, les sacrilèges dont les prêtres maintenant se rendent coupables à cause de cette nouvelle liturgie. Réparons ces sacrilèges. Troisième grande intention, bien chers fidèles, c'est magnifiquement dit par le pape Urbain IV. Surtout, dit-il, surtout pour confondre la perfidie et la démence des hérétiques. Évidemment, si nous disons cela maintenant, face aux modernistes, ils frissonnent de rage. Et pourtant, c'est la vérité prononcée par un pape et un saint pape, surtout pour confondre la perfidie et la démence des hérétiques, les hérétiques actuels, qui utilise cette messe nouvelle pour ne plus croire. Quelle perfidie de tomber à côté de la foi catholique, de se détourner de la foi catholique, c'est la perfidie. Et puis la démence, la folie, c'est un vent de folie qui a saisi l'Église, qui trouble les esprits, qui les aveugle, qui les égare loin de la vérité. Alors nous voulons résister à cette folie. Nous voulons rester saints d'esprit. Nous voulons rester catholiques. Voilà le troisième motif de notre procession. Confondre la perfidie et la démence des hérétiques. Et enfin, mes chers fidèles, comme disait le pape Urbain IV, quatrième grande intention de la fête Dieu, pour l'affermissement et l'exaltation de la foi catholique, pour le triomphe de la foi catholique sur l'hérésie actuelle, pour cet affermissement de la foi, comme il nous est bon de nous trouver au pied du Saint-Sacrement et de processionner derrière lui tout à l'heure, pour affermir notre foi. Non, ce n'est pas du pain, c'est le vrai Dieu, le Dieu fait homme. Pour affermir et exalter publiquement aux yeux de tous, aux yeux de tous ceux qui vont nous voir tout à l'heure dans les rues, pour exalter la foi catholique, pour qu'à nouveau l'Église soit en honneur et non pas humiliée comme elle l'est actuellement par le faux écuménisme, pour exalter notre Église, l'Église du Verbe incarné, la seule Église de Dieu, l'unique arche du salut. Pour exalter l'Église, alors nous allons faire cette procession du Saint-Sacrement. Voilà, bien chers fidèles, les quatre grands motifs qui poussèrent ces saints papes, ces saints évêques à instituer la fête du Saint-Sacrement. Et tout à l'heure, nous porterons le divin roi en procession, courageusement. Et notre Sainte Église, nous voulons la faire triompher. C'est pourquoi nous voulons former, bien chers fidèles, je dirais, une sainte ligue, une union spirituelle, apostolique, comme une promesse, un serment, de combattre jusqu'enfin à Rome, à nouveau, la messe de la tradition catholique, la messe de toujours, soit à nouveau célébrée, approuvée, recommandée, imposée dans l'Église universelle. Voilà la signification de notre réunion aujourd'hui. Une ligue combattante, apostolique, missionnaire, afin qu'à nouveau, partout dans l'Église, et spécialement à Rome, la messe de toujours soit célébrée, la présence réelle soit louée, et le divin roi, reconnu roi de toutes choses, aussi bien spirituelles que temporelles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, qui êtes venus de loin, de tous les pays, non seulement de Liège, mais aussi de toute la Belgique, de Hollande, des Pays-Bas, donc du Luxembourg, de France, d'Allemagne, pour honorer tout à l'heure notre Seigneur au Saint-Sacrement par cette procession. Le thème de la conférence ne traite pas de la Sainte Eucharistie, mais de la tradition. La tradition vivante et combattante. Die lebendige Tradition, die kämpferische Tradition. Vous savez que en 1988, on a excommunié Mgr Lefebvre, soi-disant, parce qu'il avait une fausse idée de la tradition. Une idée contradictoire et incomplète. Or, justement, c'est le contraire. Mgr Lefebvre et nous avons la vraie idée de la tradition, et ce sont les modernistes qui ont perverti. Les modernistes ont perverti le concept de la tradition. La tradition est essentiellement immuable, bien chers amis. Mais ça n'empêche pas d'être vivante. Alors on nous dit, n'est-ce pas, vous les traditionalistes, vous êtes la tradition morte, vous êtes des fossiles. C'est le contraire. Nous, chez nous, la tradition, elle est vivante. Et vous, les modernistes, vous l'avez tuée. Vous ne vivez plus de la tradition. Vous mourrez des nouveautés. Voilà le thème de ma conférence. De prouver donc que la tradition est essentiellement immuable, elle ne peut pas changer, et pourtant elle est vivante, parce que nous en vivons. Et ce faisant, elle subit un progrès homogène. Au cours des siècles, la tradition subit un progrès homogène, c'est-à-dire dans le même sens. La tradition, d'abord, est essentiellement immuable. Pourquoi ? Parce que la tradition, c'est seulement transmettre un dépôt qui ne change pas. Dieu a révélé toute la révélation par les prophètes, par Jésus-Christ, par les apôtres, et après, la révélation, elle est terminée. La révélation publique est terminée avec la mort du dernier des apôtres. Et dès lors, la révélation ne peut plus subir de progrès, elle est terminée. Saint Pédis, dans Lamentabili, a condamné la proposition qui dit « La révélation, objet de la foi catholique, n'a pas été complète avec les apôtres. » C'est condamné. Et Saint Jean, dans l'Apocalypse, dit bien « Je déclare que quiconque entend ces paroles de cette prophétie, de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un en retranche des paroles de ce livre prophétique, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Donc si quelqu'un veut changer la tradition, bien Dieu le retranchera de son livre de vie. Il n'ira pas au ciel. Le magistère de l'Église a pour objet de transmettre la tradition. Tradition, ça vient du latin tradere, trado, tradis, tradere, n'est-ce pas, qui veut dire transmettre. On transmet d'une génération à une autre un dépôt immuable. C'est ça la tradition. Vatican I parle de Saint-Pierre, le pape, et de ses successeurs en disant « L'Esprit Saint n'a pas été promis à Pierre et à ses successeurs. » afin que par sa révélation, il mette à jour une doctrine nouvelle, mais pour que par son assistance du Saint-Esprit, il conserve, les papes conservent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par les apôtres. Donc il s'agit seulement, dans l'Église, voyez-vous, de transmettre fidèlement et d'exposer saintement la révélation. On ne peut rien y changer. C'est Vatican I, c'est rien, c'est pas moi qui invente. Et le pape Pie IX, déjà, avant Vatican I, dans l'encyclique Qui Pluribus, avait condamné l'erreur progressiste qui voulait que la tradition progresse en disant, voilà ce que dit Pie IX, ce n'est pas une moindre tromperie que ces ennemis de la divine révélation, louant hautement le progrès humain, veulent l'introduire par une audace téméraire et sacrilège dans la religion catholique. Comme si la religion elle-même n'était pas l'œuvre de Dieu, mais des hommes, ou qu'elle fût une invention philosophique qu'il fut permis de perfectionner d'une façon humaine. Très bien dit, Saint Pie IX, n'est-ce pas ? La religion catholique, la religion, on ne peut pas la changer humainement. Elle ne subit pas un progrès humain, parce qu'elle est révélée. Et donc ceux qui veulent la changer sont des audacieux, téméraires et sacrilèges. Voilà ce que dit Pie IX. Et pourtant, ça n'empêche pas cette tradition immuable d'être vivante. Voyez, elle est immuable, comme Dieu qui ne change pas. La tradition, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie divine, sa révélation, sa vie, son mystère, qui nous sont transmis, c'est tout. La révélation, c'est la vie divine transmise aux hommes. Dieu ne change pas, donc la tradition ne change pas. C'est tout. Les bienheureux du ciel, chers amis, sont sans cesse, éternellement, face à face avec Dieu. Ils voient toujours le même Dieu, la même merveille, et ils ne s'ennuient pas. C'est toujours nouveau pour eux. C'est toujours un nouvel émerveillement. Et pourtant, c'est toujours la même chose. C'est toujours la vie du bon Dieu, la Sainte Trinité. Voyez ? Alors la foi catholique nous prépare. La foi de la terre nous prépare à la vision du ciel. Et donc la foi de la terre doit être immuable, comme la vie du ciel, des bienheureux dans le ciel, est immuable. Et pourtant, nous en vivons de cette tradition. Et donc, elle est vivante. C'est-à-dire que les catholiques d'hier et d'aujourd'hui en vivent. C'est pour ça qu'on dit que la tradition est vivante. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit subir une mutation, comme disent les progressistes. En effet, ni dans l'objet de la foi, ni dans l'intensité de la foi, ni dans le pouvoir de la foi sur la vie chrétienne, ni dans les fruits de la foi, bien chers amis, on observe dans l'histoire d'Église un progrès. Personne ne peut dire cela. Personne n'osera dire que le XXe siècle, eh bien, il y a eu un progrès dans la quantité des vérités révélées. Personne ne pourrait dire qu'au XXe siècle, on croit d'une façon plus intense qu'au premier siècle, au temps des martyrs. Ce n'est pas vrai. Personne n'osera dire qu'au XXe siècle, le pouvoir de la foi pour animer la vie de la société, est plus important qu'au Moyen Âge. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Personne n'osera dire que dans les fruits de la foi, dans la fécondité spirituelle de la foi, il y a un progrès au XXe siècle par rapport au siècle précédent. Ce n'est pas vrai. Ce sont des menteurs qui vous disent cela. Au contraire, il y a plutôt une décadence, la preuve. Ici, nous sommes 700. Ce matin, nous étions 700. Alors qu'il y a 50 ans, ils étaient 50 000 pour la procession du Saint-Sacrement. Cet après-midi, ils seront peut-être 1 000 ou 1 500. Il y a 50 ans, ils étaient 50 000. Où est le progrès? Et donc, cette tradition vivante ne subit pas un changement, elle est inchangeable. Pour qu'elle soit vivante, il suffit que les chrétiens en vivent. Or, le néo-modernisme a tué la tradition parce qu'ils ont interrompu la transmission et ils ont falsifié le dépôt. Ils ne croient plus en la messe, ils ne croient plus en la présence réelle, etc. Ce dépôt révélé, immuable, dont nous vivons, bien chers amis, a cependant une vitalité d'application à chaque siècle. Chaque siècle pourra tirer de ce dépôt ce qui est nécessaire pour en vivre et pour se défendre en même temps contre les adversaires. On peut dire que la tradition a une aptitude pratique à s'appliquer à chacune des erreurs ou des dangers contemporains. C'est ce qu'explique très bien le pape Pie IX dans son encyclique Gravissimas Inter à l'archevêque de Munich en 1862. Il dit ceci, « En effet, l'Église, par sa divine constitution, doit garder très soigneusement, intègre et inviolé, le dépôt de la foi divine, et veiller continuellement avec le plus grand soin au salut des âmes. Et par conséquent, ajoute le pape, rejeter et éliminer avec le suprême soin toutes les choses qui peuvent s'opposer à la foi ou amener de quelque manière en danger le salut des âmes. » Donc vous voyez très bien, le pape Pie IX montre le double rôle de l'Église. Il faut garder ce dépôt, inviolé, inchangé, mais il faut l'utiliser. Il faut en puiser sans cesse des vérités pour rejeter, éliminer, condamner tout ce qui pourrait s'opposer à la foi ou mettre en danger le salut des âmes. Et donc il y a dans le magistère de l'Église une fonction de combat. Cette tradition n'est pas seulement un dépôt statique, mais c'est aussi une arme de combat contre les hérétiques, contre ceux qui veulent tuer la foi catholique. La tradition est une arme. La tradition est un combat. Chers fidèles, chers amis. Donc, on pourrait dire en deux mots, principe immuable qui ne change pas, mais vitalité d'application dans un combat incessant contre l'erreur. Et c'est vrai, toute l'histoire d'Église nous montre ce développement extraordinaire du magistère d'Église, sans cesse de nouvelles vérités définies, sans cesse des dogmes mis au jour, ciselés, mieux expliqués, mieux exprimés. Mais pourquoi ? Toujours pour lutter contre de nouvelles erreurs, de nouvelles hérésies. C'est l'Église combattante qui a cette vitalité d'application de la même tradition. Par exemple, au Concile de Trente, le Concile de Trente de la session 22 dit ceci, « Si quelqu'un dit qu'à la messe, on n'offre pas à Dieu un vrai et propre sacrifice, qu'il soit anathème, on condamnait par cela l'erreur des protestants, et on définissait par là même une vérité de foi, puisée dans le dépôt, mais mise à jour. » Voyez-vous, on ne fait que mettre à jour ce qui était contenu dans le dépôt, à savoir la messe est un vrai et propre sacrifice. Donc, transmission d'un dépôt inchangé et en même temps, nouvelle proposition des perles précieuses qui sont contenues dans ce dépôt. Alors, on va les tirer du dépôt. Pas, on va le tirer du trésor pour les mettre en valeur. On va en ciseler les mille facettes pour qu'elles éclairent tous, pour qu'elles brillent aux yeux de tous. Et c'est ce qu'on appelle une définition dogmatique. On n'a fait que prendre une vérité déjà révélée, mais qu'on va mettre au jour. Voilà en quoi consiste le progrès de la tradition. Ce n'est pas un changement. On ne fait que faire passer de l'implicite à l'explicite. Ce qui était contenu dans le trésor, dans le dépôt, dans la cassette précieuse des vérités révélées, on va les sortir les unes après les autres pour qu'elles atteignent leur sommet d'explicitation, de perfection, qu'on appelle les dogmes. Voilà le progrès doctrinal, le progrès de la tradition. Mais à la base, ce progrès est possible parce qu'il y a un dépôt immuable. Ce que se dit saint Paul. Saint Paul dit à Timothée, « Ô Timothée, conserve le dépôt. » Voilà, conserve le dépôt, ne le change pas. Ou encore, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, « Tenete traditiones, tenez les traditions que vous avez apprises, soit par ma parole, » soit par une de nos épîtres, dit saint Paul, tenez les traditions. Je vous ai parlé d'un développement homogène du dogme, ou de la liturgie, ou de la tradition. C'est vrai, donc au fur et à mesure où l'Église doit lutter contre les hérésies, elle sort de son dépôt ses hérésies toujours anciennes, mais toujours nouvelles, en les faisant passer de l'implicite à l'explicite. Et c'est ça qu'on appelle un développement homogène. Par exemple, la Sainte Eucharistie, la présence réelle, ce que nous fêtons aujourd'hui, donc, eh bien, de toujours, on a dit, évidemment, à la messe, le pain devient le corps du Christ, c'est clair, ça a toujours été cru par l'Église, sauf par les hérétiques, qui n'étaient pas de l'Église. Seulement, autrefois, on n'avait pas les expressions parfaites pour dire cela. Par exemple, on disait, il s'agit d'un changement. Le pain est changé dans le corps du Christ. Voilà, il y a un changement. Mais alors, avec le Concile de Trente, on a trouvé l'expression parfaite, transsubstantiation, passage d'une substance à une autre. À savoir que la substance du pain est changée dans le corps du Christ, que la substance du vin est changé dans le sang du Christ. Il reste seulement ce qu'on appelait les accidents. Les apparences extérieures du pain et du vin restent sur l'autel. Mais derrière, la substance, elle a été changée. Ce n'est plus la substance du pain et du vin, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Concile de Trente a forgé cette expression « transsubstantiation ». passage d'une substance à une autre, qui a l'avantage de bien nous montrer qu'il s'agit d'une présence corporelle et non pas de ce moment d'une présence spirituelle. C'est le corps du Christ qui est là présent avec son sang, son âme et sa divinité. Voyez-vous, ce n'est pas seulement une présence spirituelle comme notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans l'assemblée en prière. Ce n'est pas cela. Or, la nouvelle messe, l'article 13 de la nouvelle messe dit, et c'est pourquoi, au cours de cette célébration eucharistique, s'applique éminemment cette parole de Jésus à ses apôtres, quand vous serez assemblés, deux ou trois de vous seront assemblés, je suis présent au milieu d'eux. Ça ne va pas. Ça, ce n'est pas la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. C'est seulement la présence spirituelle dans l'assemblée en prière. Alors, quel progrès a fait le Concile Vatican II? Je vous le demande un peu. Quel progrès a fait cette nouvelle messe par rapport à la tradition? Mais c'est plutôt une régression, une négation de la présence réelle. Au lieu de mettre en valeur cette pierre précieuse, ciselée par le Concile de Trente, on l'a mis dans sa poche et on a fabriqué une autre artificielle, toute fausse, et qui falsifie la vérité catholique. C'est un passage donc de l'implicite à l'explicite, ce progrès de la tradition. Rien de plus, rien de plus. Un peu comme en biologie, les sciences de la nature, quand vous examinez un bourgeon de l'arbre au printemps, maintenant justement, avant le développement des feuilles, dans le bourgeon, vous avez déjà toute la feuille, mais simplement enveloppée sur elle-même. Et alors, quand le bourgeon s'ouvre, eh bien, la feuille ne fait que développer ce qui était contenu dans le bourgeon. C'est un passage de l'implicite à l'explicite, mais ce n'est pas une transmutation. C'est la même feuille qui était dans le bourgeon, c'est la même chose. Eh oui. Eh bien, pour la foi, c'est pareil. Ce qui autrefois était cru implicitement, par exemple au Moyen-Âge, est maintenant cru explicitement parce que l'Église a ciselé cette vérité dogmatique. Mais elle n'est pas nouvelle, elle est toujours ancienne. Et j'ajouterais, une fois définie, comme par exemple la transsubstantiation, une vérité de foi, une fois qu'elle est définie par l'Église, elle est irréformable. On ne peut pas la changer. On ne peut pas inventer une autre formule dogmatique pour Dieu dire mieux. C'est impossible. On a atteint un sommet de perfection dans la définition dogmatique. Je prendrai l'exemple de la transsubstantiation. Donc le Concile de Trente, 1570, définit donc qu'à la messe, les espèces du pain et du vin sont, le pain et le vin sont transformés, sont transsubstantiés dans le corps et le sang du Christ, et qu'il s'agit d'un changement de substance. Voilà. Alors maintenant, au XXe siècle, vient le dominicain Skilbeck's et il dit, moi, je vais faire mieux. Je suis plus fort que saint Thomas d'Aquin, je suis plus fort que le Concile de Trente. Moi, je pense que c'est une transsignification. Voilà. Autrement dit, le pain et le vin changent de signification, c'est tout. Ils signifient maintenant le corps et le sang du Christ. Voilà. Transsignification. Skilbeck's. Eh bien, c'est une hérésie. Ce théologien est un hérétique. Et il a conduit des milliers de catholiques dans l'hérésie. Parce qu'il a voulu faire mieux que le Concile de Trente. Il a voulu dépasser un sommet insurpassable. Et donc, à chaque époque, l'Église va ciseler ces pierres précieuses que sont les dogmes définis, par exemple l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, ou encore l'Assomption corporelle de Marie, définie par Pie XII en 1950, ou encore l'infaillibilité du pape, quand il parle ex cathedra, défini au Concile de Vatican I par Pie IX, etc. Et ce sont des sommets insurpassables, on ne peut pas faire mieux. Ceux qui veulent faire mieux, ce sont des hérétiques, ils tombent dans l'erreur. C'est leur punition, par orgueil. Où est le progrès? Le progrès est seulement dans l'exactitude de la définition, dans la précision des termes employés, un passage donc de l'implicite à l'explicite, c'est tout. Rien de plus. Il n'y a pas de mutation dans la tradition. Je prendrai aussi l'exemple de la liturgie, c'est pareil. La messe codifiée par le pape Saint Pie V, c'est aussi un de ses sommets insurpassables. On ne pourrait pas jamais créer une messe plus belle, plus significative du mystère qui s'y opère, chers fidèles. C'est impossible. La meilleure preuve, c'est la preuve a contrario par la nouvelle messe. Ils ont voulu faire quelque chose de mieux. Ils ont prétendu que la liturgie pouvait encore progresser. Essentiellement. Eh bien non, c'est une régression. La preuve, c'est que beaucoup de ces prêtres qui ont pris la nouvelle messe, maintenant, ils ont perdu la foi. Ils ne croient plus à la présence réelle. Ils ne savent même plus ce que c'est que la messe. J'interrogeais dans ma famille, un membre de ma famille, il n'est pas prêtre, mais enfin, il a suivi le catéchisme des prêtres qui disent la nouvelle messe. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que la messe pour toi? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, la messe, qu'est-ce que c'est? Il me dit, la messe, c'est la commémoration de la scène. Voilà. Eh bien, c'est ce que disent les protestants. Et pourtant, mon neveu, il est catholique. Il m'a dit, c'est la commémoration de la scène. Mais il aurait dû dire, non, c'est la commémoration, c'est le renouvellement même de la croix. Ah, c'est pas la même chose. Et donc, il n'a plus la foi catholique en vue. Je ne sais pas s'il l'a perdue, mais en tout cas, il n'y croit plus explicitement. C'est une régression, cette nouvelle messe. Puisque les fidèles qui la vivent perdent la foi. Où est le progrès? Au contraire, ici, chers amis, ce matin, nous avons eu la messe de toujours, mais nous en vivons. Et grâce à cela, nous gardons la foi. Voilà le progrès. Le progrès, c'est dans la fidélité. Les modernistes, donc, ont un concept évolutif de la tradition. Ils disent, pour être vivante, la tradition doit évoluer sans cesse. Sinon, ça ne serait pas intéressant, ce serait une tradition morte. Voyez, ils ont une idée évolutive de la tradition vivante. Voilà, c'est leur mot. Ils ont ce mot à la bouche sans cesse. La tradition vivante. Et par tradition vivante, ils veulent dire tradition évolutive, spécialement par l'assimilation d'éléments mondains, profanes, au dépôt de la révélation. Il s'agit de faire entrer dans le dépôt révélé des choses nouvelles prises du monde, de la civilisation moderne. C'est ce qu'on a fait avec la nouvelle messe, avec la nouvelle liturgie. Il fallait emprunter au monde des éléments pour enrichir, soi-disant, la tradition. Eh oui. Et c'est justement ce que le Concile Vatican II a voulu faire et a déclaré avoir eu l'intention de faire. C'est dans le Concile. C'est dans Gaudium et Spes numéro 11 que je peux vous citer. N'est-ce pas? Le Concile se propose avant tout, donc c'est très important ce qu'il va dire, le but premier du Concile. Le Concile se propose avant tout de juger à la lumière de la foi les valeurs les plus prisées par nos contemporains. Liberté, égalité, fraternité, liberté religieuse, liberté de conscience, libre concurrence des idéologies, etc. Les idées les plus prisées par nos contemporains. Et de les relier à leur source divine. Ces valeurs, dans la mesure où elles procèdent du génie humain, qui est un don de Dieu, sont fort bonnes. Mais il n'est pas rare que la corruption du cœur humain les détourne de l'ordre requis. C'est pourquoi ils ont besoin d'être purifiés. Fin de citation. Gaudium et Spes, numéro 11. Vous irez voir. J'ai cité exactement. Donc, Vatican II a voulu prendre les idées contemporaines, les idées modernes, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, voyez-vous, également la liberté de conscience, de toutes les consciences les plus erronées, les plus fausses, la liberté religieuse pour toutes les religions, même les plus fausses, peu importe. Ce sont les idées modernes. Il a voulu les relier à leur source divine, parce que toutes ces idées, dit Vatican II, ont une source divine, puisqu'elles viennent du génie humain. Ce sont des créations du génie humain. Donc elles ont Dieu pour source. Simplement, il faudrait un peu les purifier. Voilà. Et c'est ce que le Concile a voulu faire. Eh bien, je n'hésite pas à dire qu'une telle entreprise est vouée à l'échec. C'est un blasphème, c'est impossible, parce que le Saint-Esprit n'a pas été promis à l'Église pour inventer des choses nouvelles, pour y introduire dans l'Église des choses nouvelles. Pas du tout. Pas pour introduire dans l'Église les dogmes de la liberté, égalité, fraternité et droit de l'homme sans Dieu, les nouveaux dogmes. Pas du tout. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église simplement pour transmettre fidèlement, exposer saintement le dépôt de la foi. Alors, vous voyez, Vatican II a voulu faire du nouveau. Eh bien, c'est une catastrophe. Et le Saint-Esprit n'a pas pu assister une telle opération. En faisant cette déclaration d'intention, le Concile Vatican II a écarté d'emblée l'assistance du Saint-Esprit qui seul aurait pu garantir l'infaillibilité de ces décrets, en particulier de la liberté religieuse ou de l'écuménisme. Ils ont écarté le Saint-Esprit, puisqu'ils ont voulu faire autre chose que le Saint-Esprit. Donc ils ont chassé le Saint-Esprit. Ils ont résisté au Saint-Esprit. C'est un péché contre le Saint-Esprit. Et ce péché mène à l'aveuglement actuel. C'est quelque chose d'effroyable. C'est quelque chose de démoniaque, de satanique. Et un aveuglement volontaire. Puisqu'on écarte le Saint-Esprit, on empêche son intervention en voulant introduire dans le dépôt de la foi des choses étrangères, des choses du monde, des choses profanes, qui plus est des choses qui avaient été condamnées par les papes précédents. La liberté religieuse en particulier, condamnée par les papes, tous les papes depuis Pie VI, Pie VII, Grégoire XII, Léon XII, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Pie XI, tous ont condamné la liberté religieuse. Et maintenant, on veut l'introduire parce que c'est le fruit du génie humain. Voilà, liberté. Le fruit du génie humain, donc ça vient de Dieu, donc on peut l'introduire dans le dépôt révélé. Oh, bien chers fidèles, cette entreprise, bien chers amis, cette entreprise d'assimilation de choses étrangères par l'Église, elle était prédite par avance par des prophètes, Yves Congar en particulier. Le cardinal Congar, Yves Congar, dans son ouvrage « Vraies et fausses réformes dans l'Église » en 1950, décrit le même processus que va faire le Concile. Je lis, je cite, « Les progressistes, dit-il, il parle de Lamennais, donc les libéraux du XIXe siècle. Les progressistes ont alors, au XIXe siècle, pris tel quel pour les introduire en christianisme. Et ceci, ils ont exagéré, hein, en pensant les baptiser, des idées qui, nées dans un autre monde, souvent hostile et encore chargé d'un autre esprit, ils pensaient pouvoir les introduire dans l'Église, dit Congar. Or, dit-il, réconcilier l'Église et un certain monde moderne ne pouvait se faire en introduisant tel quel dans l'Église les idées de ce monde moderne. Cela supposait tout un travail en profondeur par lequel les principes permanents du catholicisme prissent un développement nouveau en assimilant, après les avoir décantés et aux besoins purifiés, les apports valables de ce monde moderne. » Fin de citation. Je répète parce que j'étais un peu vite. Il s'agit donc de donner au catholicisme un développement nouveau, d'après Congar. Un développement nouveau, comment ? En assimilant, n'est-ce pas ? En introduisant dans le dépôt de la foi, après les avoir purifiés, les apports valables du monde moderne. Or, les apports valables du monde moderne, je vous l'ai dit, ce sont les droits de l'homme, c'est la fausse liberté, les idéologies libertaires et égalitaires des révolutionnaires, rien de plus. Les idéologies de la liberté de conscience. Donc, en les purifiant, on va assimiler ces choses-là au dogme catholique et ça va faire un développement nouveau pour le catholicisme. Voilà ce que disait Congar en 1950, donc 15 ans avant Vatican II. C'était un prophète, mais un faux prophète. Le cardinal Ratzinger dit la même chose en 1985, 20 ans après le concile. Il fait le procès de l'après-concile. Il dit « l'Église est en crise, il y a une crise de la foi ». Mais il ne voit pas les causes. Et pourtant, il dit ceci. Il décrit exactement ce que le Concile a voulu faire. Je cite, « Le problème des années 60, donc les années du Concile, était d'acquérir les valeurs les mieux exprimées de deux siècles de culture libérale. Ce sont en fait des valeurs qui, bien que nées hors de l'Église, peuvent trouver leur place, purifiées et corrigées, dans sa vision des choses. » On dirait qu'il répète Congar. On dirait que Ratzinger ne fait que répéter le cardinal Congar, c'est vrai. Acquérir les valeurs les mieux exprimées de deux siècles de culture libérale en les purifiant. Toujours le même système, donc, d'assimilation-purification. On va introduire dans la foi catholique des idées profane du monde et condamné, s'il vous plaît, simplement en les purifiant. Eh bien, c'est impossible. Cette opération d'assimilation-purification est une adultération du dépôt de la foi par des nouveautés profanes condamnées. C'est une adultération du dépôt de la foi. Voilà tout le mal du progressisme actuel. Ils ont adultéré la foi catholique. Introduire de force des éléments étrangers déjà condamnés dans la doctrine catholique. Mais c'est ça le péché contre le Saint-Esprit dont je vous parlais tout à l'heure. Eh oui. Introduire dans la société catholique l'esprit libéral, l'esprit révolutionnaire. Mais c'est une falsification du dépôt révélé. Et quant à vouloir purifier ces erreurs, les décanter et les purifier, comme dit le cardinal Ratzinger, c'est une illusion. Les papes du XIXe siècle n'ont pas fait cette purification, n'ont pas voulu prétendre purifier les erreurs révolutionnaires, ils les ont purement et simplement condamnées, sans rémission, sans distinction, sans subtilité inutile. Mais voilà, le cardinal Congar, le cardinal Ratzinger, Vatican II, ils ont voulu faire mieux que les papes du siècle dernier. La conséquence, c'est qu'ils se sont cassés, ils se sont trompés. Et encore le jésuite Bernard Sesbouet, c'est un Français, père jésuite, reprend la thèse congarienne et l'agrémente d'une critique, cette fois explicite, des papes du XIXe siècle. Il dit ceci, le drame de ces déclarations du syllabus, par exemple, vous savez que le syllabus, c'est cette grande déclaration par laquelle Pie IX a condamné toutes les erreurs progressistes de son temps. Alors Sesbouet, le jésuite Sesbouet, dit c'est un drame ce syllabus, c'est une grave erreur, c'est un drame, etc. Pourquoi ? C'est que ces déclarations, dit-il, n'avaient pas discerné l'élément de vérité chrétienne qui se cachait dans ces revendications révolutionnaires, qui se présentaient à la fois comme des attaques contre la religion et comme une révolte vis-à-vis des droits de Dieu. Il reconnaît quand même, mais il regrette qu'on n'ait pas essayé de purifier ces erreurs pour quand même les introduire dans le dogme catholique. Il regrette. Ainsi, dit-il, fut boudé pendant un long temps l'idéal signifié par les droits de l'homme. Parce qu'on ne réussissait pas à y reconnaître le lointain héritage de l'Évangile. Les droits de l'homme seraient l'héritage de l'Évangile. Or, saint Pie X a condamné, dans son encyclique sur le sillon, vous le savez bien, chers amis, vous savez bien que saint Pie X a condamné ce rapprochement blasphématoire entre l'Évangile et la Révolution. Et par conséquent, cette opération d'assimilation-purification est absolument inadmissible. Et dire que les papes du XIXe siècle ont manqué de discernement, n'ont pas bien su faire discerner les choses, c'est un blasphème, c'est une offense envers ces papes. Ces papes ont fait leur devoir au siècle dernier, jusqu'à Pie XI, jusqu'à ce siècle. Ils ont condamné ces erreurs, et ils ont bien fait, et elles restent condamnées. Ces valeurs dont parle le Concile, ou le cardinal Ratzinger, ces valeurs modernes ont été déclarées inassimilables par la doctrine catholique, par exemple dans le syllabus. Et donc, ces papes, avec l'assistance du Saint-Esprit, ont énergiquement exclu toute tentative de conciliation entre l'Église et la Révolution. Ces papes ont été d'authentiques témoins de la tradition, d'une tradition vivante et combattante. Ces papes ont été des combattants. Ils ont combattu l'erreur. Or, justement, depuis le Concile, on ne veut plus combattre l'erreur. Et c'est la catastrophe. C'est le sida de l'Église. L'Église a perdu ses défenses. Au contraire, chers amis, la transmission fidèle de la tradition est la condition première de sa fécondité spirituelle. Si nous voulons porter du fruit, que ce soit par des familles nombreuses, aux nombreux enfants, que ce soit par la fondation de nouvelles écoles catholiques, intégralement catholiques, que ce soit par la multiplication de nos séminaires, donc par de nombreuses vocations sacerdotales, que ce soit par de nombreuses vocations religieuses, si nous voulons porter du fruit, la première condition, c'est de garder fidèlement le dépôt de la tradition. Ce n'est pas en le changeant, en l'adultérant, qu'on pourra porter du fruit, voyez-vous. Parce que ça, c'est prouvé par la stérilité qui frappe immanquablement toute infidélité dans la transmission du dépôt. Pourquoi est-ce que les séminaires, même ici en Belgique et en France, partout, ont fermé en très grand nombre leurs portes, ont très peu de séminaristes, parce qu'ils ont été infidèles, juste dans les années du Concile, dans la transmission du dépôt. On n'a plus transmis aux séminaristes l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, l'enseignement du catéchisme du Concile de Trente. On a voulu transmettre Congar, Ranor, Teilhard de Chardin, etc. C'est prouvé, c'est historique, ils ne peuvent pas le nier. Et donc la conséquence, la punition immanente, ils ont été frappés immédiatement de stérilité parce qu'ils n'ont pas été fidèles dans la transmission du dépôt. Mais c'est ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile en parlant des faux pasteurs vêtus de loups, de peau de brebis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà, regardez simplement les fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Ainsi, tout bon arbre donne de bons fruits et tout mauvais arbre donne de mauvais fruits. Là où la tradition a été faussée par le libéralisme moderne, elle a été stérilisée. Il n'y a plus d'enfants dans les familles n'ont plus d'enfants, ils ne se marient même plus, et encore ils sont encore baptisés. Voyez-vous? Et c'est partout, même dans nos familles, même dans notre parenté. Ils ne se marient plus, ils n'ont plus d'enfants, ils sont stériles même physiquement. Ils ne veulent plus d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la tradition, ils n'ont pas gardé la foi. Bien entendu, ils n'ont plus d'école catholique, c'est terminé. Ces écoles catholiques, encore à l'heure actuelle, ne sont plus du tout catholiques. Ils n'ont plus de vocation, ni sacerdotale, ni religieuse. Ils n'ont plus l'esprit de sacrifice, qui est l'esprit chrétien. Il n'y a plus que l'esprit de jouissance. Ils n'ont plus la foi. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Donc, vous voyez, la première condition pour que la tradition soit vivante, fructueuse, il faut qu'elle soit fidèle. Or, chers amis, pour que la tradition soit fidèle, la transmission soit fidèle, il faut qu'elle soit combative. Voilà une vérité trop ignorée. Vouloir avoir la foi sans combat, c'est s'exposer à la perdre. Ils ont voulu avoir la foi sans combat. Jean 23 a dit lui-même qu'il ne voulait plus combattre, qu'il ne voulait plus condamner. Eh bien, le résultat, c'est la perte de la foi. Vouloir avoir la foi sans combat, c'est la perdre. La première garantie de la transmission fidèle de la tradition, c'est le combat contre les ennemis de cette tradition. Une Église qui renonce à combattre, qui veut faire ami-ami avec les ennemis, qui veut pactiser avec les ennemis, une telle Église s'expose à trahir la foi. Une Église dialoguante, pour reprendre l'expression de Paul VI, voyez, une Église dialoguante avec les grandes embrassades œcuméniques et sentimentales, avec les mea culpa hypocrites sur la poitrine de nos ancêtres dans la foi, quelle horreur! Une telle Église s'expose à devenir infidèle à sa mission de transmettre fidèlement, et rien que cela, le dépôt de la foi dans toute son exigence. Il ne s'agit pas de dialoguer avec l'erreur, il s'agit de la dénoncer, de la combattre, comme on a toujours fait. Renonçant donc à combattre, la tradition se condamne à mort. Le néo-modernisme a tué la tradition parce qu'il n'a plus voulu le transmettre, il l'a falsifié parce qu'il a renoncé à combattre, il l'a adultéré parce qu'il l'a désarmée face à l'erreur, pour la marier à l'erreur. Quelle horreur! Au contraire, nous, fidèles catholiques, et rien que cela, sans épithètes superflues dont on veut nous affubler à tort, nous, fidèles catholiques et romains, chez nous, la tradition est bien vivante. Pourquoi? Parce qu'elle est combattante. Elle est fructueuse parce qu'elle est combative. Elle est féconde parce qu'elle garde l'esprit de combat. Voilà, chers amis, avec notre attachement dogmatique à la messe de toujours, au vrai sacrement, à la vraie spiritualité, à la ascèse chrétienne, voilà la tradition combattante qui, depuis 25 ans et plus, assure par son combat les conditions mêmes de sa transmission intègre et de sa vitalité. Ne perdez pas l'esprit de combat. Le combat n'est pas terminé. C'est la messe romaine qu'il faut ramener à Rome. C'est cette messe romaine traditionnelle, affirmons-le, qui résume à juste titre qui concentre tout notre combat vital et la vitalité pugnace de la tradition catholique authentique. Oui, grâce à un évêque ou à deux évêques fidèles, Mgr Marcel Lefebvre et Mgr de Castromayer, c'est eux qui ont sauvé cette tradition. Sans eux, où serions-nous? Que serions-nous? Nous aurions perdu la foi comme tous les autres. C'est grâce à ces deux évêques qui ne se sont pas endormis et qui se sont levés, qui ont protesté, qui ont combattu, qui ont été les deux témoins fidèles, qui ont maintenu la tradition. C'est grâce à eux que nous sommes encore catholiques. Alors, bien chers amis, ne nous endormons pas non plus, nous autres. Ne dormons pas sur nos lauriers. Ne disons pas, c'est très beau, nous avons gardé la messe. Oui, pour nous. Mais il faut la garder pour tous les autres, pour toute l'Église, pour Rome. Ce précieux dépôt qui nous est légué, il faut le transmettre à toute une jeune génération catholique, pour le salut de nos églises, de nos familles, pour le salut de la patrie, de nos patries respectives, et pour le salut de toute l'Église. remercie de votre attention.